las conferencias de Radio Languedoc. L'escritura de las fennas es pas de bon coneixe din la literatura occitana. L'Universitat Occitana d'Estio de Nîmes convidait l'historien Raymond Huard pour nous faire découvrir l'œuvre et la vie de Jeanne Galzy, écrivaine romancière du siècle XX. Aquí la première partie de sa conférence registrée au Centre Agora de Nîmes le 5 de juillet de 2014.
Nous avons le plaisir d'accueillir Raymond Huard, qui a été professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul Valéry. Historien, il a écrit plus d'un livre. Deux derniers livres sont « À l'arrière du front, le Gard, département mobilisé » de 1914 à 1919, en 2011. Avec d'autres auteurs, « Vote FN, pourquoi ?» au Diable Vauvert, 2013. Et également deux livres dont le sujet va être évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire la vie de Jeanne Galzy, romancière, et les vers que Jeanne Galzy, la poésie qu'a écrit Jeanne Galzy, des poèmes de 1910 à 1921. Donc romancière, cette romancière a vécu de 1883 à 1977. Bon, et nous l'écoutons.
Alors donc merci d'abord à l'Université Occitane d'été de m'avoir invité à traiter de Jeanne Galzy. Pourquoi traiter de Jeanne Galzy dans une Université Occitane d'été? C'est une romancière assez oubliée aujourd'hui, bien qu'elle ait été appréciée en son temps, qu'elle ait écrit 20 romans, 7 biographies, des contes, des pièces de théâtre. Qu'elle ait obtenu le prix Femina en 1923 pour un livre qui s'appelait Les Allongés, qu'elle ait fait partie du jury de ce prix à partir de 1945. Mais ça n'était pas une occitaniste. Pourtant, c'est une écrivaine dont la vie et l'œuvre s'inscrivent très largement, bien que non exclusivement dans notre région. Elle est née et elle est morte à Montpellier. Elle a écrit dans cette ville une partie importante de son œuvre. Et il faut ajouter que sa personnalité a fortement subi l'influence de sa région de naissance. Donc elle fait bien partie du patrimoine culturel de l'Occitanie et on peut regretter justement que sa place ne soit pas suffisamment reconnue. Donc je n'ai pas connu Jeanne Galzy, dont je n'ai commencé à lire l'œuvre qu'assez tard, vers 1970. J'aurais pu la connaître, mais ça ne s'est pas produit et je le regrette d'ailleurs. Et j'ai donc commencé par ses dernières œuvres, c'est-à-dire par les 4 volumes dont je reparlerai plus tard, de ce qui s'appelle « La surprise de vivre », dont la qualité à l'époque avait été unanimement reconnue dans la presse nationale. Puis plus tard, donc, au début des années 1890, je suis revenu vers l'œuvre et la personnalité de Jeanne Galzy, alors qu'elle était décédée en 1977, que son œuvre était déjà un peu oubliée, et c'est parce que j'avais l'impression vraiment d'une injustice que je me suis mis à étudier sa vie et son œuvre de façon très approfondie, avec des recherches d'archives, etc. Et ça aboutit à un livre qu'on a présenté, Jeanne Galzy, romancière ou la surprise de vivre, publié en 2009, grâce à un éditeur très audacieux, parce que vraiment c'était un acte d'audace de publier ce livre, les éditions Inclinaison à Uzès, dirigées par Jean-Paul Hérault, qui a donc accepté de publier ce livre, et qui a même rechuté, si je puis dire, récemment, en publiant en 2013 le petit volume de poésie de Jeanne Galzy que j'avais pu rassembler à l'occasion de mes recherches. Alors, je suppose que, quand même, vous ne connaissez pas tellement Jeanne Galzy, enfin, peut-être certains d'entre vous la connaissent, mais je vais quand même rappeler, en 5 moments assez brefs, son itinéraire, un itinéraire qui n'a rien de linéaire, qui est marqué par des inflexions inattendues, par de dures épreuves, et puis montrer comment cet itinéraire a influencé, évidemment, les principales épreuves, les principales étapes de son œuvre. Et puis, puisque nous sommes à l'Université Occitane, eh bien, j'essaierai de cerner un peu plus le rapport, à la fin, le rapport de Jeanne Galzy à notre région. Donc, premier point, une jeunesse heureuse, des débuts prometteurs. Jeanne Galzy, dont le nom véritable était Jeanne Baraduc, est née à Montpellier donc le 30 septembre 1883, dans la Grand Rue, 27 Grand Rue, une maison qui existe toujours. Sa famille était originaire du Massif central, exactement de la Tour d'Auvergne, au sud du Mont d'Or, et celle de son père, Blanche Guillot, était originaire du Velay. Donc nous avons là le cas absolument classique de montagnards qui sont descendus vers la plaine. Et des deux côtés, il s'agissait de commerçants appartenant à la moyenne bourgeoisie. Le père de Jeanne avait une entreprise de mercerie au 15 de la Grand Rue et ses grands-parents maternels étaient opticiens, il possédait un magasin intitulé « À la lunette marine ». Alors ce décor montpelliérain qu'elle a connu donc, dans sa plus tendre enfance a profondément marqué Jeanne Galzy, qui a très bien parlé de sa ville natale et qui a d'ailleurs écrit plus tard un roman intitulé « La Grand Rue ». Donc Jeanne reçoit l'éducation d'une jeune fille de la bourgeoisie. Et elle vit dans une atmosphère assez intellectuelle, car sa mère composait des poèmes qu'elle lui lisait, et son père, nous dit-elle, avait un sens artistique assez développé. Cela peut expliquer que dès 9 ans, elle commence à écrire des poèmes, bien maladroit, hein, comme un enfant de 9 ans peut écrire des poèmes, bien entendu, mais enfin, elle commence à écrire des poèmes. Le souci de l'éducation était très vif dans cette famille. Et Jeanne Baraduc est allée au lycée de filles, créé depuis peu, en 1881. Elle est née, elle, en 1883. C'est le lycée Clémenceau, le lycée d'aujourd'hui, hein, où elle a fait une scolarité complète depuis les petites classes. Scolarité qu'elle qualifiait elle-même d'assez nonchalante, mais enfin, d'après les livrets scolaires, c'était tout de même une très bonne scolarité. Donc rien de très exceptionnel dans cet itinéraire jusqu'à présent. Et ajoutons que Jeanne Baraduc, donc, naît dans une famille mixte, le père est catholique, la mère protestante, et comme il arrive souvent, c'est la religion de la mère qui est préférée pour l'éducation religieuse des enfants, et Jeanne, donc, et sa sœur Berthe, qui était née 6 ans après elle, ont donc été baptisées par le pasteur Corbière de Montpellier. Alors, au terme de ses études secondaires, en 1899, donc, Jeanne mène la vie d'une jeune bourgeoise jusqu'en 1904. Elle lit beaucoup, elle va à la bibliothèque de Montpellier, etc. Mais en 1904, son parcours devient plus original, car elle convainc ses parents de lui permettre de suivre les cours de français, d'histoire et de géographie à la faculté des lettres de Montpellier. Initiative très rare à l'époque, car il n'y avait à Montpellier alors qu'une dizaine de jeunes filles étudiantes, dont la plupart d'ailleurs étaient étrangères. Elles étaient russes ou anglaises, pour l'essentiel. Donc Jeanne était un cas un peu à part. Fait plus extraordinaire, elle obtient un an plus tard, en 1905, l'autorisation d'aller à Paris, au lycée Fénelon, pour préparer l'ENS de Sèvres, où elle est admise 6e sur 16 en 1907. Elle s'est donc arrachée, en quelque sorte, à sa famille et à Montpellier, alors que rien ne l'y forçait. Ses parents étaient aisés, pouvaient lui assurer son existence. Sinon, donc, certainement, le bouillonnement intérieur qui l'animait, le sentiment d'étouffer à Montpellier. Alors, elle arrive à l'ENS de Sèvres, et on a un témoignage sur ce passage, grâce à un livre qu'elle a écrit plus tard, qui s'appelle « Jeune fille en serre chaude », publié en 1934. Et elle y évoque d'abord l'austérité des conditions de vie, hein, à laquelle elle n'était pas du tout habituée, une certaine sécheresse de l'enseignement donné par des professeurs âgés, et aussi, quand même, ce qui était plus favorable, la camaraderie très durable qu'elle tisse avec ses compagnes d'école. Voilà un portrait de Jeanne Baraduc à 16 ans, quand elle était encore au lycée, vous voyez, peut-être à l'occasion d'une représentation théâtrale, et vous voyez que c'était quand même une très belle jeune fille. Bon, alors, la camaraderie, et puis surtout l'ouverture vers Paris, évidemment, car loin de se cantonner dans ses études qu'elle poursuit, cependant, parce qu'elle est reçue au certificat d'aptitude à l'enseignement des lettres en 1910, puis à l'agrégation en 1911, elle commence à écrire, à publier, elle s'intègre au milieu très brillant des écrivains et écrivaines qui publiaient dans le Mercure de France, c'est une revue fondée en 1889 par Alfred Valette, et qui a été avant la NRF, avant la NRF de Gallimard, vraiment à la pointe de la culture française de l'époque. Si vous lisez encore aujourd'hui le Mercure de France, qui paraissait tous les 15 jours, c'est absolument extraordinaire, et qui est d'une richesse absolument inouïe. C'est à cette époque, donc, commençant à publier, elle choisit son pseudonyme, d'abord un pseudonyme asexué, un J. Galzi, du nom d'une de ses arrière-grand-mères, puis elle se féminise en quelque sorte, Jeanne Galzi. Donc, entre 1909 et 1914, Jeanne Galzi est une jeune fille brillante, introduite dans le milieu littéraire parisien, passionnée de théâtre, qui connaît des écrivains et des écrivaines un peu sulfureux, on pourrait dire un peu en marge, comme Rémy de Gourmont, Rachilde, René Vivien, la blonde américaine Nathalie Clifford Barney, qu'on appelait aussi l'Amazone, le jeune Jean Giraudoux, son contemporain, puisqu'il est né en 1882, et aussi le dramaturge Antoine, et des actrices, parmi lesquelles une tragédienne renommée, Eugénie Segond-Weber, tragédienne de la Comédie française, qui est nettement plus âgée que Jeanne, mais qui exerce sur elle une véritable séduction passionnée, qui durera d'ailleurs toute sa vie. Voilà le départ pour Paris, donc admission à LCNS de Sèvres, entrée dans la vie littéraire, et voilà deux aspects d'Eugénie Segond-Weber dans différentes pièces, Les Jacobites d'une part et Hernani. Bien, alors, elle commence en 1909 en donnant un petit conte au journal Le Matin, qui avait une rubrique qui s'appelait « Les contes des saints à matin », et elle publie des poèmes dans le Mercure de France. Ce sont d'ailleurs, c'est parmi ceux-ci, on en a publié dans le petit livre. Et puis même, elle écrit en 1912 une tragédie, Cassandre, inspirée donc de l'Antiquité, une petite pièce qui est jouée à l'Odéon en 1911, La Revanche de Boileau. Et enfin, sur les conseils d'Alfred Valette, qui était directeur du Mercure de France, il lui dit « Mais au fond, vous devriez écrire des romans. » Et elle commence donc à écrire un premier roman qui s'appelle « L'Enseveli », publié en 1911 et 1912. Alors, essayons de la situer un peu, donc juste avant la guerre. C'est donc une jeune femme qui a 30 ans, en 1913, qui est résolument moderne. C'est-à-dire que les auteurs qui l'influencent, ce sont des contemporains, souvent étrangers. C'est l'italien D'Annunzio, c'est Nietzsche qui est mort en 1900, car Jeanne Galzi a étudié l'allemand. Maurice Maeterlinck, poète et dramaturge belge. C'est l'écrivain français fondateur de ce qu'on appelait l'école romane, Jean Moréas, bien oublié aujourd'hui d'ailleurs, ou bien dans un autre genre, un romancier intimiste, Édouard Estonnier, qui a publié en 1913 un très joli livre, d'ailleurs, Les choses voient. Et puis cette poétesse René Vivien, qui chante les amours saphiques, des auteurs un peu précieux, un peu raffinés de l'époque. Ce modernisme n'est nullement contradictoire avec une très forte imprégnation de l'Antiquité, notamment de la Grèce, car à l'époque, la Grèce est vraiment à la mode dans les milieux littéraires, et Jeanne Galzi combine sans trop de difficultés ses influences à la fois dans ses poèmes et dans ses romans. Le roman L'Enseveli, c'est un roman très romantique, à la manière de D'Annunzio, décrivant des sentiments un peu exaltés. Elle juge son temps trop bourgeois, elle a la nostalgie de la jeune antiquité sereine et forte, elle regrette même la belle sauvagerie des temps primitifs. Vous voyez, bon. Ce qu'il exprime aussi bien dans ce roman que dans ses poèmes, c'est un désir profond de libération, désir suscité par une personnalité bouillonnante, mais cette libération lui coûte, elle lui a coûté, elle en a conscience, il a fallu s'arracher à son pays, c'était difficile, mais il fallait le faire. Alors cette période d'avant-guerre, c'est la période heureuse par excellence de la vie de Jeanne Galzi, mais tout ce que promettaient ces heureux débuts va s'écrouler en 2 ans, et on aborde donc une période beaucoup plus douloureuse de sa vie, c'est-à-dire les épreuves à surmonter. En effet, en novembre 1914, donc la guerre vient de commencer, Léon Baraduc, père de Jeanne, meurt après une brève maladie et Jeanne doit rentrer à Montpellier pour essayer de gérer l'entreprise familiale et en tout cas s'occuper, c'est une entreprise de mercerie, je le rappelle, et s'occuper de sa mère et sa sœur, ce qu'elle fera jusqu'à leur mort. Donc c'est elle qui est désormais le chef de famille et c'est une très lourde responsabilité. Très vite, bon, il faut liquider le commerce de mercerie qui ne peut pas, pendant la guerre, n'a pas vraiment de raison de fonctionner. Hein. Et Jeanne n'a pas d'autres ressources donc pour faire vivre sa famille que de prendre un poste dans l'enseignement, ce que ses diplômes lui permettent. Et puis, il y a très peu de femmes diplômées, il faut le rappeler à l'époque. Et en plus, on manque cruellement de professeurs puisque on a mobilisé les hommes évidemment à la guerre. Donc la voilà en août 1915, nommée au lycée de garçons de Montpellier, qui était lui-même déplacé à la faculté de droit à cause de la guerre. Alors c'est une expérience tout à fait nouvelle pour elle, une expérience d'enseignement, elle n'a jamais enseigné, et une expérience d'enseignement à de jeunes garçons, disons de 12, 13 ans, 13, 14 ans. La tâche est lourde. Au départ, elle a 7 classes comptant 221 élèves. Elle enseigne l'histoire, la géographie, le français. Elle a l'impression d'un chaos vertigineux, comme elle le dit. Mais elle s'adapte très bien à ce public un peu fruste. Mais elle se rend compte aussi que l'enseignement qu'on donne à l'époque est trop classique, hein, qu'il n'est pas adapté à la mentalité des élèves. Elle trouve qu'ils préfèrent le cinéma à Andromaque, hein, bon, ça c'est sûr. Hein. Et puis, il préférait aussi qu'on étudie les auteurs latins en français. Ça serait beaucoup plus commode hein, que de les forcer à traduire très mal les auteurs latins au lieu de les leur faire connaître en français. Bon. Et cet enseignement est donné dans une atmosphère de guerre, c'est-à-dire de deuil dans les familles. Certains de ses élèves vont s'engager à la sortie du lycée, vous voyez, certains vont être tués d'ailleurs. Et puis c'est une époque de bourrage de crâne, de propagande patriotique exacerbée. Bon, c'était déjà une première épreuve à surmonter. Deuxième épreuve, et c'est lié aux conditions de vie hein, pendant la guerre, en 1917, elle est atteinte de tuberculose osseuse, ce qu'on appelait à l'époque le mal de Pott. Maladie terrible à l'époque, puisqu'on ne sait pas la soigner, hein, qui aboutit à déformer complètement le corps des malades, et on devine ce que ça peut être pour une jeune fille aussi belle que vous l'avez vue. Alors, le seul remède, c'est d'enfermer le corps des malades dans un étui de plâtre pour éviter sa déformation et puis d'exposer les malades une partie de la journée à l'air marin. Et donc, on envoie Jeanne au Gros du Roi d'abord, puis en 1918, à Berck, dans le Pas-de-Calais, station renommée dès cette époque pour le traitement de cette maladie. Voilà à quoi ressemblait la plage de Berck à l'époque. Bon, c'est encore une station très renommée. Hein. Bon. Là, elle connaît, à la fois par expérience personnelle, et puis voilà aussi, pendant que j'y suis, un des établissements de cure, par exemple, de Berck. Elle connaît donc, au contact des malades, les souffrances de ceux qu'elle va nommer un peu plus tard les allongés, c'est-à-dire solitude, désespoir... Hein. L'évasion que peut donner la lecture, les petites joies quand même au contact de la nature, des saisons, etc. Elle lit énormément, elle complète sa culture, elle lit Platon, Balzac, Stendhal, Rousseau, Voltaire, Diderot, et même des mystiques comme l'Imitation de Jésus-Christ. Elle reste à Berck jusqu'en 1920, et en 1920, à peu près guérie, mais de santé un peu fragile encore, elle est nommée en 1920 au lycée de filles, cette fois d'Amiens, où elle va rester jusqu'en 1925. Alors, Amiens était une ville qui a été très profondément éprouvée par la guerre, en partie démolie, hein, et c'était une ville industrielle assez sinistre. Hein. Bon, mais Jeanne Galzy, qui est très seule, elle connaît la vie de celle qu'elle appellera les moniales de l'éducation, mais pour elle, l'essentiel, c'est qu'Amiens, ça n'était pas loin de Paris, et qu'elle pouvait aller rapidement, facilement, retrouver dans les week-ends ses amis, son ami Eugénie Segond-Weber, et aussi Nathalie Barnet et tous les écrivains du Mercure. Alors, faisons un petit point sur le travail littéraire de Jeanne Galzy pendant cette période. Elle a continué à écrire pendant la guerre des poèmes qui, au départ, sont imprégnés de patriotisme. Elle a cédé un peu à la flamme patriotique. Et puis, après, en 1918 et 19, elle est au contraire très sensible à la dureté épouvantable de la guerre. Et d'autre part, à Berck, elle transpose dans son expérience éducative, dans un livre qui n'est pas vraiment un roman, qui s'appelle « La femme chez les garçons », publié en 1919. Alors, c'est un ouvrage en rupture complète avec le précédent, qui était, je répète, un peu exalté, les grands sentiments, etc. C'est une description très concrète, par courte séquence, de ce que peut ressentir un professeur dans les circonstances que j'ai évoquées, avec ses essais de renouvellement pédagogique, avec ses réflexions sur l'enseignement classique, avec ses moments de découragement et même d'aspiration mystique. Et alors ces aspirations mystiques commencent à intéresser de près les critiques chrétiens qui se disent tiens, voilà une âme qui pourrait être allée vers nous, si vous voulez. Hein. Bon, c'est normal. Bon. Des historiens ont jugé que ce livre était un des meilleurs témoignages qu'on pouvait donner sur les enfants pendant la guerre. Alors, avec ce livre, elle commence à se faire connaître dans le monde littéraire, vraiment. Mais ce n'est pas encore une vraie célébrité, et cette célébrité ne va venir un tout petit peu plus tard avec un roman, la parution d'un roman, donc en 1923, Les Allongés. Les Allongés, elle l'écrit donc à Amiens, après avoir repris sa tâche d'enseignement. Alors, c'est évidemment l'expérience des gens qui ont la tuberculose osseuse et qui sont à Berck. Ce n'est pas la première, c'est pas très gai comme sujet, hein, c'est pas un sujet apparemment très attractif. Hein. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un roman met en scène des tuberculeux. Dostoïevski l'avait fait dans L'Idiot, et puis, par exemple, un auteur un peu mondain, disons, Michel Corday, dans Les Embrasés, à peu près à la même époque. Thomas Mann, l'Allemand, donc, ne publiera qu'un peu plus tard, en 1924, La Montagne Magique, qui retrace l'expérience d'un sénatorium. Bon.
Les conférences de Radio Languedoc.
C'était tout de même assez audacieux de faire de la tuberculose osseuse, je veux dire, une matière littéraire. Donc, Jeanne Galzy a évité, évidemment, elle ne cache rien des aspects les plus terribles de la maladie, mais elle a évité quand même de focaliser le récit là-dessus, et elle s'est consacrée avant tout aux états d'âme de ces grands malades, enfants, adolescents, jeunes femmes comme elle. Il y avait des soldats venus du front, il y avait des gens appartenant à des milieux très différents, parfois très riches, parfois pauvres, hein. Et chez qui la maladie provoquait des réactions très, très différentes. Certains abattus, désespérés, d'autres révoltés, etc. Bon, d'autres déniant même la maladie. Hein. Alors, et en même temps, il y avait dans le livre aussi une atmosphère de spiritualité qui, à nouveau, frappe les critiques catholiques, même si rien, absolument rien, ne traduit une conversion de Jeanne Galzy à la religion. Alors, le livre, évidemment, qui ne se prêtait pas du tout, on est en 23, vous voyez, on est dans les années folles, l'atmosphère de l'après-guerre. Les éditeurs ne veulent pas de ce livre, hein. Bon, la plupart le refusent. Mais un éditeur audacieux, Rieder, qui a disparu dans les années 30, l'accepte sur le conseil de Jean-Richard Bloch. Et après un début un peu difficile, ce livre eut un succès tout à fait inattendu. Et à la rentrée littéraire, il fut même proposé pour le Goncourt. Mais à l'époque, les jurés du Goncourt excluaient de couronner une femme. Donc un critique renommé, Lucien Descaves, défendit l'ouvrage auprès du jury du Fémina, qui couronna Les Allongés, qui était pourtant en concurrence avec, par exemple, un livre de Joseph Kessel, L'Équipage, et un livre de Monterland, Le Songe. Vous voyez, c'était quand même une concurrence assez sévère. L'ouvrage a un très large écho dans la presse et suscita même ce qu'on pourrait appeler une querelle des allongés. Parce que d'abord, on s'est ému à Berck dans le milieu médical en disant « Oh, mais ça donne une image trop sombre de cette station de soins, qui est quand même une station de soins qui fait honneur à la France, hein, qui sauve des tas de gens, etc. » Bon, mais ce n'était pas vraiment le sujet. Ensuite, un vrai débat chez les chrétiens. Un vrai débat chez les chrétiens dont certains, comme Eugène Tavernier, qui était critique à Dépêche de Lille, et aussi l'influent critique de la revue des lectures, c'est la revue des lectures, c'était la revue de l'Église, hein, pour conseiller les livres aux gens, aux croyants. Ils avaient aimé ce livre à cause de son atmosphère, justement, de spiritualité. Et puis, il y avait en revanche une frange catholique plus intransigeante, dont, par exemple, une dame de Nîmes, mademoiselle Lazarus, qui était royaliste, et qui, au contraire, dénonçait ce livre comme un livre matérialiste, d'un scepticisme macabre. Donc, vous voyez, il y a tout un débat autour du livre, mais dans l'ensemble, l'accueil est très favorable, on parle d'accent pascalien, on est sensible à la délicatesse avec laquelle Jeanne Galzi a traité le sujet, et c'est le livre de Jeanne Galzi qui a connu la plus longue carrière, puisque, édité en 1923, il a été réédité jusqu'en 1975, hein, donc c'est une assez belle carrière. Et puis, il a eu le prix féminin. Donc, le modeste professeur au lycée d'Amiens, complètement ignoré, était très rapidement devenu, comme ça, du jour au lendemain, une personnalité littéraire nationale. Hein. Et sur le plan matériel, le prix plus les revenus des droits d'auteur, quand même, améliorèrent assez sensiblement la position de l'auteur. Et le succès des Allongés a permis la réédition, évidemment, de La femme chez les garçons et la réédition de L'enseveli, et ce qui leur a permis de toucher un nouveau public. Voilà. Et enfin, donc, en 1921, grâce au soutien d'Eugénie Segond-Weber, qui était une très forte personnalité, Jeanne Galzi réussit à faire jouer à Montpellier sa pièce Cassandre, donc, en 1921, à l'occasion des fêtes du 7e centenaire de la faculté de médecine, et pièce qui a eu du succès, mais évidemment sans lendemain. Alors, voilà où on en est donc vers 1923. Voilà ce qui était devenu en quelque sorte Jeanne Galzi au moment du Fémina. Elle reste quand même, c'est un visage très beau, hein, très majestueux. Et donc, on passe à une nouvelle étape, une période plus paisible, celle qui s'étend entre le prix Fémina et la guerre de 1939. Alors, elle mène une double vie de professeur, enfin une double vie, pas au sens habituel du terme, mais enfin elle mène une vie à la fois de professeur et d'écrivain, car elle a choisi de rester professeur pour des raisons matérielles, parce qu'il faut faire vivre sa famille, toujours, sa mère et sa sœur, hein. Et puis, ça lui assure son indépendance matérielle et la littérature est en plus. Sa santé s'améliore au cours du temps. Elle est nommée d'abord à Saint-Germain, puis à Saint-Germain dans la banlieue parisienne, puis à Paris, au lycée Lamartine, où elle va rester jusqu'à sa retraite, en début des années 40. Petit lycée de jeunes filles, très sympathique. Alors, c'est un professeur assez original, hein, qui, à l'époque, au lieu de faire cours, fait dialoguer ses élèves, etc. Un rapport d'inspection générale de 1938 dit ceci. Montaigne, à coup sûr, se serait plu à cette classe qui lui était consacrée et n'aurait pas reconnu, entre guillemets, une geôle de jeunesse captive dans ce milieu libre, aisé et gai, où la finesse et l'esprit se jouent agréablement. Les élèves visiblement heureuses doivent aimer leur professeur et lui avoir gré de les initier de façon si charmante aux choses de l'esprit comme on le ferait à des loisirs littéraires dirigés. Oui, pour un rapport d'inspection générale, je peux vous dire que c'est quand même un bon rapport d'inspection générale. Bon, donc elle partage son temps entre l'enseignement et la création littéraire. Elle vit très simplement à Passy, non loin de son ami Eugénie Segond-Weber, et puis elle va à la campagne deux jours par semaine par écrire. Alors, elle n'écrit plus à ce moment-là, elle continue à produire des poésies, mais dans l'ensemble, elle ne les publie plus. Elle a aussi abandonné momentanément le théâtre, elle y reviendra un peu plus tard, et elle se consacre essentiellement à deux genres, le roman et la biographie. Alors, dans le roman, en matière de roman, Jeanne Galzi ne s'est jamais figée, fixée, si vous voulez, dans un type de roman. Hein. Il y a des romanciers qui se figent dans un type de roman. On voit Mauriac, un roman de Mauriac, un autre roman de Mauriac, un troisième roman de Mauriac. Je vous dirais que c'est tous les mêmes. Ils sont très bons, ça n'empêche pas, mais c'est tout de même un genre littéraire qui est à peu près toujours le même. Tandis que pour Jeanne Galzy, au contraire, ça change sans arrêt, elle veut expérimenter, changer, etc. Donc, le premier roman, La Grand Rue, 1925, se situe à Montpellier, dans la rue du même nom. Alors, c'était un roman très romanesque, nourri des... On pourrait l'appeler les mystères de la Grand Rue, si vous voulez, parce qu'il était nourri des souvenirs personnels, évidemment, de l'auteur. Et il avait aussi un côté un peu sulfureux parce qu'il évoquait un inceste, thème qui reparaîtra dans l'œuvre de Jeanne Galzy. Le second roman, je ne sais plus si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, alors donc on va rester là. Le second roman, Le Retour dans la vie, était au contraire inspiré de son expérience de la maladie et retraçait sous une forme romanesque, la difficulté des anciens malades à retrouver une existence normale et surtout un équilibre moral. Et c'est un roman, on peut dire, toujours d'actualité. Hein, bon. Les préoccupations spirituelles qui caractérisaient les allongés étaient toujours présentes et évidemment les critiques catholiques qui n'avaient pas tellement aimé La Grand Rue se sont ainsi reconnus dans ce livre. Et puis il faut ajouter à cette date aussi une biographie de Sainte Thérèse d'Avila, 1927, qui est une commande, parce qu'à l'époque, il se trouve hein, qu'à l'époque, on a envie de parler de la sainteté. La sainteté est à la mode, et par exemple, avec le roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan, 1925, mais d'innombrables biographies de saints. Et évidemment, si on a pensé à Jeanne Galzy pour cette biographie de Sainte Thérèse d'Avila, c'est parce qu'elle était une femme, et aussi parce que sa sensibilité paraissait en concordance avec le sujet. Et alors, dans cet ouvrage, elle apparaît aussi très, très présente, avec ses doutes, avec ses interrogations, en prise sur celle de la sainte, qui a elle-même aussi beaucoup de doutes et d'interrogations. Et là encore, les critiques catholiques disent, bon, ça va, hein, c'est quelqu'un, une catholique qui s'ignore, voyons, en quelque sorte. Mais bon, elle ne fait pas le pas décisif, elle ne se rallie pas. Bon, alors les autres romans ou biographies de la même période, écrits pas mal pendant cette période, hein, l'initiatrice aux mains vides retraçait l'expérience de la solitude d'une jeune enseignante et l'attrait d'ailleurs parfaitement chaste, mais tout de même très fort qu'elle peut nourrir pour une de ses jeunes élèves. Et puis, un peu plus tard, donc, elle transpose son expérience de Sèvres dans le livre « Jeune fille en terre chaude ». Et dans un autre roman, « Les démons de la solitude », en 1932, elle retrace, c'est la transcription sous forme romanesque du trouble, du désarroi d'une jeune fille à la fin de l'adolescence, dans un grand domaine de l'Hérault, voilà l'initiatrice aux mains vides, donc dans un grand domaine terrien de l'Hérault, avec aussi une petite histoire sentimentale. Et enfin, dernier essai, toujours nouveau, hein, toujours nouveau, c'est une espèce d'expérience, c'est un roman qu'on peut qualifier d'expérience, hein. Ça s'appelle « Le village rêve », et ce roman décrit un village du Gard pendant une quinzaine d'heures, un jour d'été, à travers les faits et les gestes d'une trentaine de personnages, de milieux sociaux très différents, du cantonnier jusqu'à la vieille demoiselle de château, un village qui pourrait être Clarensac ou Caveyrac, si vous voulez, un peu. Hein. Et à travers cette description très factuelle apparaissaient évidemment les sentiments des uns et des autres, mais aussi de façon en quelque sorte ethnographique. On voyait la modernité s'introduire peu à peu dans le village avec la TSF, l'autobus, l'électricité, etc. Et Jeanne Galzy a qualifié ce livre d'essai technique, mais elle était très consciente du fait que ce livre était plutôt en avance, si vous voulez, sur son temps, et qu'il n'aurait aucun succès, ce qui s'est d'ailleurs vérifié. Bien. Et enfin, dans ces années, à la fin de ces années 30, ce qui traduit peut-être un peu une panne d'inspiration, Elle revient à la biographie avec deux biographies de femmes du XVIe siècle, Catherine de Médicis et la reine Margot, en 1939, car Jeanne Gazier a toujours préféré le XVIe siècle. Ce XVIe siècle, c'est son siècle préféré depuis ses études supérieures, à la fois à cause de la qualité de la langue, qui n'est pas encore disciplinée par le classicisme, qui n'est pas encore, on pourrait dire, châtrée par le classicisme, et puis d'autre part parce que c'est un siècle violent. C'est curieux de dire ça, mais c'est comme ça. C'est un siècle violent, de grands conflits, de conflits armés, de conflits de religion, etc., de grandes passions. Et ce qui est très frappant, c'est que quand elle parle du XVIe siècle, c'est pas du tout le siècle de l'humanisme. C'est un siècle plutôt de grandes passions et de grands conflits. Bon, peut-être cette orientation vers la biographie traduisait un certain essoufflement de l'inspiration romanesque. Alors, on en arrive, voilà, jeune fille en serre chaude. Et on en arrive au quatrième point, la guerre et la retraite, Jeanne Galzy à Montpellier, de 43 à 44. La guerre apporte évidemment pour elle des changements décisifs. D'abord, elle est repliée, comme on disait à l'époque, à Montpellier. Puis en août 40, une décision générale appelle les fonctionnaires à reprendre leur poste, et elle revient donc en zone occupée. Mais en 1943, elle va avoir 60 ans. Le régime de Vichy, très peu favorable aux femmes, la force à prendre sa retraite, une petite retraite, parce qu'elle avait commencé assez tard, qui ne devait guère suffire à ses besoins. Donc elle a besoin d'écrire, il faut qu'elle écrive pour gagner sa vie. N'oublions pas qu'elle avait toujours sa mère et sa sœur à sa charge. Et à partir de ce moment-là, elle vit dans sa maison, la maison de ses parents, à Montpellier, une belle maison d'ailleurs, rue Guillaume de Nogaret, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Mais elle doit louer une chambre à une étudiante pour se faire un peu d'argent. Et elle vit quand même modestement. Alors, pendant la guerre, quels étaient ses sentiments? On ne connaît pas grand-chose. Avant la guerre, elle se situait plutôt, qu'on dirait plutôt à gauche, ce que confirme son amitié pour Jean-Richard Bloch. Et d'autre part, à l'époque de Vichy, elle ne pouvait absolument pas approuver l'atmosphère d'ordre moral du régime de Vichy, qui lui répugnait profondément. On peut savoir qu'elle a sympathisé avec la résistance, mais sans s'engager véritablement. Mais cette double expérience de la vie à Paris jusqu'en 1943 et puis de la vie à Montpellier à partir de 1943 lui a permis d'avoir justement la vision des deux côtés de la France en quelque sorte, et elle l'utilisera un petit peu plus tard. Alors pendant cette période, elle continue à écrire des romans qui sont intéressants mais qui ne sont peut-être pas la meilleure partie de son œuvre, qui se passent en général dans des hautes terres comme le Limousin ou la Lozère ou aussi en pays roussillonnais. Voilà. Et ces romans de la ruraux, en quelque sorte, sont centrés sur le huis clos familial, l'effet terrible des jalousies féminines, la violence des passions. Ce sont des romans assez sombres. Jamais elle ne s'est plus dans la mièvrerie sentimentale. Donc, à la Libération, elle avait acquis assez de notoriété pour entrer au jury du Féminin en 1945, ce qui lui permit de rester en contact avec la vie littéraire parisienne. Et cette année 1945 est aussi celle où meurt Eugénie Segond-Weber, qui avait été son amie de toujours, et ça a été pour elle un moment très difficile. Donc, cette période est aussi assombrie par la mort de sa sœur Berthe en 1961. Alors, cette vie, donc, de la fin de la guerre jusqu'en 1969, c'est une époque donc où elle va continuer à produire, elle continue à produire, toujours avec cette tentative de renouvellement. Le Parfum de l'œillet qu'elle publie en 1956, c'est un roman policier, d'ailleurs un très bon roman policier. Celle qui vient d'ailleurs en 1958, c'est un roman fantastique, vous voyez. Et de cette inlassable curiosité et goût d'entreprendre témoigne aussi l'intérêt qu'elle attacha aux expériences de théâtre radiophonique menées par Montpellier, par Radio Montpellier dans les années 50 et auxquelles participait un écrivain principal comme Frédéric Jacques Temple et aussi une comédienne, Madeleine Attal, qui était la comédienne qui travaillait pour ce théâtre radiophonique. Et pour ces expériences de théâtre radiophonique, elle a écrit des adaptations, soit de ses propres romans, soit d'œuvres d'autres auteurs comme Ramuz ou Hofmannsthal. Oui, alors la voilà par exemple à un pot à Radio Montpellier et à ce théâtre radiophonique participaient des comédiens, par exemple de la Comédie Française. Ici, il paraît qu'il y a, je ne peux pas le vérifier, Denis Dinès et Julien Berthaud, mais qui étaient à l'époque sociétaires de la Comédie Française. Mais ça, je ne pourrais pas vous dire qui ils sont sur la photo. Et enfin. Pendant cette période, donc, retenons trois œuvres majeures quand même de cette période. C'est un roman, La jeunesse déchirée, qui paraît en 1952, et deux biographies, celle de Georges Sand et celle d'Agrippa d'Aubigné, sur lesquelles je parlerai tout à l'heure.
À cause de la première partie de la conférence de Raymond Huard, a proposito di Jean Galzi, scrivano, romanziere lingadusiano del siglo XX. Fu registrato per l'Università Occitana d'Estio de Nimes nel 2014.